Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais bien évidemment, c'est pas du tout ce que je vais vous dire pour l'année 2016. Non, non, au contraire, je vous la souhaite belle, joyeuse, etc., etc. Oui, une belle année. Eh bien, écoutez, espérons qu'on verra d'aussi bons films en 2016 que ce que nous avons vu en 2015. Parce que je faisais justement un peu la liste et je m'aperçois que sur tous les films que j'ai vus, hein, je ne parle pas des films que je n'ai pas vus, bien évidemment, mais sur tous les films que j'ai vus, je reconnais que, vous savez, il y en a des années comme des films comme des bouteilles. Eh bien, je crois que ce sera une bonne année qui va bien vieillir. Et parmi les films qu'on a vus en 2015, je pense qu'il y en a qui resteront au patrimoine. Et alors, je vous propose un petit jeu. Vous pourrez trouver sur le site internet tenu par Olivier et sur, vous mettez FM++, vous l'écrivez en lettres, P-L-U-S. Vous allez voir la liste de tous ces films dont je vais vous parler. On va entendre quelques bandes annonces. Et ce serait bien que vous en trouviez trois qui vous ont le plus marqué. Voilà, évidemment, parmi les, je répète, parmi les films dont je vais vous parler, bien évidemment. Parce que c'est vrai quand même qu'il y a déjà une petite sélection, vous voyez. Parce qu'il y a quand même des films qui sont peut-être très populaires, très sympathiques, mais ça n'est pas de le cinéma. J'ai pas l'habitude, je ne parle que du 7e art, si je puis dire. Bien, donc je vous redis le site où vous allez pouvoir voir la liste des films et en même temps voter. Donc écoutez bien, www.radiofmplus.org. Ok, ça marche ? Allons-y. Alors, le premier film que j'ai vu, et que vous avez certainement vu, que j'ai vu en janvier, on va dire en janvier 2015, c'est Timbuktu. Bon, alors Timbuktu, évidemment, de Abderrahman Sissako, qui a croulé sous des récompenses. C'est vrai que c'est un très beau film, mais pour ma part, vous allez voir que dans les autres films, dans tous les mois qui ont suivi, il y a eu aussi d'excellents films. Alors ensuite, toujours en janvier, il y avait La Rançon de la Gloire de Xavier Beauvois. Alors c'est vrai que les gens ont un peu critiqué ce film, pourtant c'était très drôle, c'était l'histoire de Charlot, si je puis dire, mais qui piquait le cercueil du vrai Charlot, qui venait décider parce qu'il voulait une rançon. Alors c'était quand même, l'idée était assez drôle. Et il y avait Poulvorde que j'ai découvert et qui est, parce que moi je sais pas le genre de film avec Poulvorde que je vois, et là j'ai été agréablement surprise. Voilà. Alors ensuite il y a on va passer parce que c'était un film de Abel Ferrara, mais bon, non, on n'en parle pas. Un autre film en revanche excellent que j'ai vu toujours en janvier, Foxcatcher de Bennett Miller. Et ça, j'aimerais bien qu'on écoute la bande-annonce. Foxcatcher de Bennett Miller.
Vous savez qui je suis
exactement?
Un type riche vous téléphone. Je voulais discuter avec vous de ce que vous espérez accomplir. Qu'espérez-vous accomplir, Marc?
Je veux être le meilleur du monde.
Bien.
Voici une clé pour vous. La résidence est à 200 mètres si on vous invite à dîner là-bas. Défense d'entrée autrement.
D'accord. Monsieur Dupont est un entraîneur visionnaire. Il souhaiterait que Foxcatcher soit désigné centre d'entraînement officiel de l'équipe olympique.
C'est quoi son intérêt?
À quoi tu réfléchis? On est là. C'est tout ce qu'on a toujours espéré.
Marc, tu as vécu dans l'ombre de ton frère aîné durant toute ta vie. C'est ton heure, maintenant.
Je vous promets, je vous donnerai tout ce que je peux.
J'encadre des hommes et j'apporte à l'Amérique de l'espoir.
Je me suis cherché un père toute ma vie et j'en ai enfin trouvé un en John Dupont. John.
Qu'importe, la lutte est un sport dégradant. Et je n'apprécie pas de te voir en situation dégradante.
Pourquoi, il n'y a personne au gymnase?
Oui, non.
Tu n'es qu'un ingrat, une brute. Marc,
ça va aller.
D'accord.
Voilà, vous venez donc d'entendre la bande-annonce de Foxcatcher de Bennett Miller. C'est un film tout à fait remarquable, admirable, à revoir pour en savourer l'écriture. Un film dont la mise en scène est quasiment invisible, car en adéquation totale avec le sujet traité, une histoire qui dépasse les protagonistes avec des plans d'une grande beauté qui soulignent la tragédie, notamment comme ce dernier plan dont on ne peut pas, qu'on ne peut pas oublier, un large plan blanc de neige avec la minuscule silhouette de John qui vient de sortir d'un tunnel sous terre, enfin, etc., etc. Donc c'est un film tout à fait remarquable par un réalisateur qui c'est lui qui avait fait Truman Capote, qui était déjà un excellent film. Donc Foxcatcher de Bennett Miller. Ensuite, je voudrais vous parler d'un film qui est très très différent, mais qui était aussi très troublant et d'un réalisateur qu'on aime beaucoup. Il s'agit de Phoenix de Christian Petzold. Et ça, en deux mots, c'est un film qui, en Allemagne, a créé d'ailleurs un certain malaise face à l'horreur des atrocités d'Auschwitz. Comme quoi, même en Allemagne, on reste parfois bloqué sur l'histoire et non sur le film. Mais enfin, en tout cas, Petzold réalise un film avec sa famille cinématographique, toujours avec ses acteurs et notamment Nina Hoss. Superbe, et le non moins remarquable Ronald Ziegfeld. Ce sont des acteurs pleins de retenue, de silence, il n'y a que des regards. C'est un film romanesque où la tragédie se décline au-delà du contexte historique. C'est un film magnifique. Phoenix de Christian Petzold. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Ohne Johnny hätte ich das Lager nicht überlebt. Jede Nacht, jeden Tag habe ich nur daran gedacht, wie ich zu ihm zurückkomme. Und als ich dann wieder hier war, da muss ich ihn einfach suchen.
Der Wundkanal hier ist eine Schussverletzung. Wir haben sie für tot gehalten. Haben sie Glück gehabt.
Du hast geerbt. Deine ganze Familie ist tot.
Wo ist Johnny?
Johnny hat dich verraten.
Un autre film, alors là, qui est tout à fait différent, que j'ai vu également, je crois que c'était en février 2015, c'est Snow Therapy. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film de Ruben Östlund. Et c'est un film, je dirais, qui est très grinçant, qui manie l'humour, quand même, avec beaucoup d'élégance, et qui dénonce l'inconsistance des êtres. Et en effet, ils vont dans la neige. J'ai compris, enfin, pourquoi les gens allaient dans la neige. C'est parce que c'est une thérapie. C'est quand même des givrés qui ont besoin de se sentir mieux. Mais ça se passe pas. Vous savez, quand on est givré, hein. Et donc ça va bien avec la neige. Donc Snow Therapy, c'est un film très très drôle, je vous le recommande évidemment. Ensuite, il y avait un film, on n'en parle même pas, c'est Les Merveilles, c'était complètement raté. En revanche, un autre film que j'ai vu en mars, Birdman d'Iñárritu. Ça, nous allons nous écouter la bande-annonce. Birdman d'Iñárritu.
Qu'est-ce qu'on fout là? Ça sent le slip. On avait tout. Tu étais une star, tu t'en souviens?
Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous montez cette pièce pour vous débarrasser de cette image de super-héros au rancard qui vous colle à la peau?
Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'il y a déjà 20 ans, j'ai refusé de participer au tournage de Birdman 4.
Birdman 4? Oh! Vous faites de Birdman 4?
Sois lucide, papa! Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que t'as trop la trouille d'être comme tout le monde, la trouille de pas compter!
Et maintenant, tu vas foutre en l'air ce qui reste de ta carrière. On aurait dû accepter cette émission de télé-réalité.
Ta gueule.
Tu sais que j'ai raison.
Ta gueule.
Tu commences à me faire chier!
Hein? Ça va?
Tu devrais essayer de te reposer.
T'as pas compris? C'est toi le vrai super-héros. On va faire notre comeback. Tu es Birdman. Tu es un dieu.
Va chercher ton costume d'oiseau, ta paire d'ailes et ton bec.
On va remettre ça rien qu'une fois et leur montrer de quoi on est capable. J'ai une chance à saisir, tu comprends? Une chance unique.
Arrête de
sourire comme ça, tu me fais...
Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce de The Birdman de Iñárritu. Alors vous le savez, Iñárritu, c'est quand même celui qui nous a donné quelques chefs-d'œuvre comme Babel. Voilà, c'est donc il est d'origine mexicaine. Concernant l'histoire de Birdman, évidemment, c'est relativement simple. Enfin, en plus de ça, il y a eu d'autres films qui ont traité ce sujet. C'est l'histoire en deux mots d'un acteur qui est has-been, quoi, qui faisait Birdman et qui tenait le rôle de Birdman. Et puis bon, là, il a vieilli. Il voudrait relancer sa carrière, mais d'une façon plus intellectuelle. Et donc, c'est pas toujours aussi simple. Il veut trouver un travail qui a du sens. Il dit à sa fille, voilà. Et voilà. Et en même temps, sa fille lui dit, oui, tu fais ça pour toi. Oui, c'est vrai qu'il a besoin de se recréer une image. Alors, le ton de ce film de Iñárritu oscille entre humour, cynisme, ombre, lumière, la scène, les coulisses, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, voilà, etc., etc. Et pour cela, il utilise d'ailleurs des décors qui sont comme des dédales, des couloirs étroits, des portes fermées, et une caméra qui filme tout en travelling avec des longs plans séquences, une souplesse qui se meut comme une errance dans les bas-fonds, enfin, etc. C'est quand même un film tout à fait remarquable. C'est un film très habile, qui est maîtrisé techniquement, et baroque, on pourrait dire, à la mexicaine, et qui se termine par un gros plan du personnage principal qui regarde le ciel. Il voit évoluer les oiseaux, les vrais, c'est pas Birdman, c'est des vrais oiseaux qui sont peut-être d'ailleurs des Birdmen. En tout cas, c'est un film qui se termine par une sorte d'envolée poétique, et cependant c'est un film très noir, mais vraiment de qualité. Birdman d'Iñárritu, que j'ai vu au mois de mars. Après, il y a un autre film que j'ai vu également en mars, c'était Big Eyes de Tim Burton. Pas mal non plus. L'histoire de ce film, donc Big Eyes de Tim Burton, c'est un sujet qui ne pouvait que plaire à Tim Burton, hein, parce que c'est l'histoire de Walter Keane. C'est un faiseur complètement délirant. Il a été capable de jouer son rôle pendant plus de 10 ans en réduisant sa femme à l'état d'esclave, c'est-à-dire c'est elle qui dessinait et c'est lui qui en avait tous les honneurs. Et évidemment, il a une personnalité hors norme, incontestablement. Il est à sa façon, j'ai envie de dire, un créateur de sa propre mise en scène, et en cela on sait que Tim Burton, il l'a dit d'ailleurs dans des interviews, admire les créateurs, donc je pense que c'est la raison pour laquelle il admire cet homme qui crée dans le mensonge, évidemment. Alors évidemment les gens ont dit, oh c'est pas un Tim Burton comme on les aime. Oui, c'est vrai que dans ce film, il n'y a pas de déluge de sang, de tête coupée et d'autres horreurs poétiques et lyriques, c'est vrai. Mais moi je trouve que c'est quand même un film qui est pas mal. De toute façon, vous serez là pour voter, vous pourrez en donner votre avis. Alors ensuite, il y a un autre film, évidemment peut-être un peu plus intellectuel, un peu plus complexe, peut-être il y a beaucoup de gens qui l'ont, enfin il y a moins de gens qui l'ont vu, on va dire, c'est La Sapienza de Jane Green. Et La Sapienza, c'est un film... Alors moi j'adore les gens qui ont de l'audace et qui osent faire des films qui sont à contre-courant, voilà. Et je trouve que c'est du cinéma intelligent qui tend à dire des choses et à ouvrir à la connaissance, et comme le dit d'ailleurs le titre, La Sapienza. C'est un film assez froid, c'est le choix du réalisateur qui maîtrise ses cadres, qui ne procure pas d'émotion, mais voilà, ça crée cette émotion du bonheur d'apprendre, quoi. Voilà, donc moi je mettrai quand même je me souviens très bien et je me souviendrai toujours de La Sapienza de Jane Green. Un autre film toujours de, je crois que c'était en avril, The Humbling de Barry Levinson. Alors, le grand problème de ce film, il n'était pas inintéressant, mais il est peut-être venu trop tard, c'est-à-dire il est venu après Birdman. Et donc, c'est l'histoire aussi d'un acteur vieillissant. Je pense que c'est un film qui, si on le revoyait aujourd'hui, peut-être on l'aimerait davantage, parce qu'il est arrivé, je le répète, vraiment trop en même temps que Birdman, qui était quand même beaucoup plus génial, quoi. Voilà. Donc peut-être à revoir. Ensuite, il y a Leopardi de Mario Martone. C'est pas mal. C'est un animal, parce que d'abord il y a une image qui est superbe, et c'est un biopic. C'est un biopic justement de Leopardi, hein, qui a vécu, on va dire de, enfin qui est mort en 1837. Hein. Et c'est quand même un personnage tout à fait étonnant. Et je trouve que Leopardi est un film assez bien fait. C'est marrant, vous voyez, en parlant comme ça, j'ai des souvenirs d'assez belles choses. C'est un film qui met en valeur la poésie et le poète dans un bel accord et désaccord d'ailleurs. Donc voilà, c'est un film poétique, oui, on peut dire ça. Alors après, il y a un autre film qui est un peu déjanté, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est, alors retenez, on va se retenir son souffle parce que le titre est un peu long. C'est un titre à la Audiard, vous savez. Un pigeon perché sur une branche philosophé sur l'existence. C'est un film de Roy Anderson. Et évidemment, Roy Anderson s'impose avec un style incomparable. Des plans séquences, des plans fixes, des plans larges, à tonnes. Il y a des tons délavés, les costumes, les visages, il y a une espèce d'aplomb. Voilà, c'est un avec des ellipses incroyables aussi. C'est un film gris, comme l'univers qu'il dépeint. C'est-à-dire, c'est un film en effet ni noir, ni blanc, ni coloré, avec des changements de scène qui donnent des situations extrêmement drôles, avec un fond cependant tout à fait tragique. Je propose, Manu, si tu en es d'accord, on va s'écouter la bande-annonce de Un pigeon perché sur une branche, philosophe fait sur l'existence de Roy Anderson.
En fågel som går väldigt bra nu och har gjort under väldigt lång tid är våra vampyrtänder. Det räcker nu.
Det här är ett avtal, en överenskommelse om att ni ska komma med redovisning varje månad. Och det har ni inte gjort. Varför inte det?
Jag har haft lite otur på sistone.
Vad sysslar ni med då?
Inom nöjesbranschen. Vi säljer skämtartiklar.
Vi vill hjälpa folk att ha roligt.
Vad roligt att höra att ni har det bra.
Säg att jag också tycker det är roligt att höra att de har det bra.
Roligt att höra att ni har det bra.
Vi vill att folk ska ha det trevligt.
Jag sa det att det var roligt att höra att ni har det bra.
Du går ju som en jävla zombie. Så här.
Det gör jag inte. Jag gick så här. Vanligt.
Får gå till doktorn nu. Det här är inte normalt. Jag är faktiskt orolig för dig.
Jag är med.
Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce de Un pigeon perché sur une branche, philosophé sur l'existence. Donc c'est un film très original qui invite à la réflexion sur notre existence avec humour et peut-être une certaine philosophie, oui, mais un peu déjantée. Et on s'aperçoit que le pigeon, est-ce que c'est nous ? J'en sais rien, notamment à un moment il y a une question... qui répond à la question de Jonathan, enfin peu importe, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les gens pour son propre plaisir ? Et la réponse est oui. Voilà, et donc, et à un moment, il dit à son frère, il se prend pour un philosophe, et c'est le fameux pigeon du titre. D'ailleurs, cette histoire, l'histoire du pigeon, c'est racontée par une enfant à qui on a demandé d'écrire un poème, et c'est justement une handicapée. Voilà, donc tout est dit, vous l'avez compris, c'est quand même un film assez drôle, mais c'est un style très particulier, je peux très bien comprendre qu'on soit hermétique. Alors le film qui suit, là je pense qu'il peut faire il a plu certainement à beaucoup parce que, bon en même temps ça me fait un peu de mal au cœur de dire ça, mais c'est pas un très bon film, en revanche c'est un film sobre, très utile, c'est-à-dire il s'agit du Labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli. Oui, donc c'est l'histoire d'un procureur, on est en 58, c'est basé sur une histoire vraie, c'est l'enquête donc menée par le procureur Fritz Bauer qui est bien décidé à poursuivre les criminels nazis. Alors bon, évidemment c'est un sujet qui nous intéresse leur défense évidemment c'est de dire mais nous on a oublié qu'on a fait qu'obéir aux ordres, bon pourquoi pas, voilà, enfin, en tout cas c'est un film qui est certainement essentiel pour soulever des questions sur le silence, sur la condition humaine, d'ailleurs sur sa propre relation lors d'un conflit, est-ce qu'on est héroïque ou est-ce qu'on se carapate, la fuite, l'héroïsme, est-ce qu'on peut regarder les choses en face ou les oublier, en faire silence vengeance. Enfin, voilà, donc, voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire que le procureur termine, c'est les mots de la fin. C'est une page de l'histoire qui s'écrit. Je suis fier de vous. Parce que c'est vrai que les gens ont osé faire une vraie enquête là-dessus. Donc, c'est un film effectivement essentiel. Mais je répète que d'un point de vue cinématographique, c'est plan-plan, quoi. Je veux dire, c'est pas exceptionnel. C'est plutôt un film d'histoire qui est à montrer aux jeunes pour qu'ils se souviennent d'un certain nombre de choses. Bon. Alors, en revanche, y a un autre film dont je voulais vous parler, c'est le Youth. Ah oui, il y avait aussi un truc très drôle. Vous voyez, j'allais oublier de le noter, mais je me souviens maintenant. C'est Les Optimistes de Gunhild. C'était un film de femmes, un espèce de documentaire, mais qui était tourné. C'était l'histoire d'un club du 5e âge au bas mot, qui avait entre 80 et 90 ans, qui décidait de monter une équipe de basket et qui allait jouer, qui allait se confronter à une autre équipe. C'était très drôle parce que c'était un documentaire. C'est ça qui était très étonnant. Elle n'avait rien inventé. C'est une équipe qui existait. C'était vraiment très très amusant. C'était les optimistes. Oui, ça je reconnais qu'elles étaient optimistes. C'est vrai qu'en parlant, enfin en m'en souvenant, ça me fait rire, quoi. Bon, alors il y a un autre film, donc je disais, c'était Youth. Youth de Paolo Sorrentino. Moi je trouve que c'était un film d'abord avec deux comédiens remarquables, Michael Caine et Harvey Keitel. C'est vrai que c'est eux qui portent le film, hein, évidemment. Puis il y a aussi une image impeccable qui est signée Bigazzi. Voilà, je crois que c'est un film qui est sur la vieillesse, mais en même temps, on s'aperçoit que les égos des artistes est quand même très malmené, parce qu'il y en a un qui est ancien metteur en scène de cinéma et l'autre chef d'orchestre. Voilà. Et donc, ces deux personnages, on entre dans leur intimité, ils sont là, ils parlent, ils s'écoutent. Bon, c'est peut-être un film un peu long, je vous dévoilerai pas la fin. Voilà, mais enfin, on sent que le réalisateur s'est travaillé. Mais écoutez, on va quand même, ne serait-ce que pour le plaisir, s'écouter les deux comédiens.
Do you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know.
A massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape.
By age, getting in shape is merely a waste of time.
And are you still directing or composing, Maestro?
Oh, no, I'm retired.
Did you take a piss today?
Four drops.
You? The same, more or less.
More?
Yes. God, you guys have got a strange friendship.
Strange? The good friendship, you only tell each other the good thing.
God.
Mummy would explain to us, quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight.
Vous venez d'entendre la bande-annonce de Youth, du film Youth de Paolo Sorrentino. Donc, film tout à fait intéressant. Et quand on l'a vu, on s'en souvient. C'est, à mon avis, ce sont des critères. Voilà. Alors, il y a un autre film que j'ai dû voir en octobre 2015. C'est Vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa. Kurosawa, on avait vu en 2009 Tokyo Sonata. C'était un film plein de pudeur. Malgré quelques longueurs, mais ça c'est pour nous les Occidentaux, on n'a pas le même temps, vous voyez, que les Orientaux. Cette chose, c'était quelque chose qui... C'est un film où le vent, la pluie s'infiltrait dans la maison. Enfin bref, vous l'avez compris, Kurosawa est en train de créer une œuvre parce qu'on retrouve les mêmes qualités. C'est un film qui allie violence et apaisement, rêve, réalité. Au fond, si la vie n'était qu'un rêve. C'est pas la première fois qu'on se pose la question, mais c'est une vraie question. Si le bonheur n'était que dans la respiration ou la musique, et ce sont déjà des thèmes qui sont présents évidemment dans Tokyo Sonata. Donc c'est un film qui montre la dualité en chacun des acteurs de la vie, c'est-à-dire on peut être à la fois violent, tendre, voilà. Donc c'est un film tout à fait remarquable, mais plein d'espoir aussi, où tout peut recommencer, comme les univers qui ne sont pas éternels parce qu'ils recommencent. Voilà, donc c'est un film relativement simple, sur un sujet d'ailleurs assez difficile, et qui réussit par son aspect poétique, voire fantastique, et c'est une œuvre assez subtile, C'était donc Vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa. Pour ceux qui l'ont vu, ce serait bien de ne pas l'oublier. Et puis alors, il y a un autre film, là c'est tout à fait différent, Woody Allen revient et nous fait un film, moi je trouve très réussi, c'est L'homme irrationnel, parce que c'est très politiquement incorrect. C'est l'histoire quand même d'un type qui se sent beaucoup mieux quand il a tué. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même un peu surprenant. Voilà. Donc, on va écouter tout de suite, Manu, la bande-annonce.
Il paraît que Abe Lucas va venir enseigner ici à partir de cet été.
Sans rire.
J'ai rien, moi, contre le côté au bout du rouleau.
Moi aussi, c'est fou.
Et moi, c'est Rita Richards. Je suis ravie que vous soyez ici.
C'est dingue, hein. J'ai même pas encore vu ce type, que j'en suis déjà jaloux.
C'est toi qui as pas tant fait.
Vous avez réussi, vous, à échanger de mots avec lui.
Il est dans son monde.
Il aime rester tranquille dans son coin.
En faisant mes courses chez le caviste aujourd'hui, je sais à quel point vous aimez le single malt, donc...
Il y a une différence entre un monde théorique basé sur un verbiage de merde philosophique et la réalité de la vie. J'y arrive plus depuis presque un an.
C'est juste qu'il est fascinant. C'est un vrai génie, mais un écorché vif aussi.
Je suis en panne d'écriture. J'arrive pas à écrire parce que j'arrive pas à respirer.
Il vous faut une muse. Bon sens, qu'il était intéressant et différent. Mais qu'est-ce qui vous prend, Abe?
C'est quand même une leçon d'existentialisme plus efficace que celle d'Emmanuel.
Vous êtes tout tremblant.
Je dois faire une crise d'angoisse.
J'espère seulement que tu ne t'attaches pas trop à lui.
Tu comprends quand même que je puisse être jaloux, non?
Alors là, c'est ridicule. La vérité, c'est que j'étais attirée par Abe, en dépit du fait que c'était une âme à la dérive.
C'est pas une bonne idée.
Ce qui se passe derrière moi?
C'est à cet instant que ma vie a pris forme.
Je suis complètement perdue. Il faut que j'arrête de te voir.
Je veux te demander pardon pour les ennuis que je t'ai causés.
Bon alors, de quoi s'agit-il ici? De morale? De choix? D'esthétique? Des aléas de la vie?
Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce de L'homme irrationnel de Woody Allen. Bon, là, vous avez entendu, évidemment, la version française. Enfin, en même temps, c'est pas plus mal parce que là, tout est dit, quoi. Vous avez parfaitement compris. Et c'est vrai que le personnage de Hebe, du philosophe, joué par Phoenix, est très, très intéressant. Donc, voilà, on dit un homme irrationnel. Oui, c'est un héros ordinaire et assez extraordinaire aussi. Donc, voilà, c'est un film charmant de Woody Allen avec une musique, comme il sait parfaitement, les mettre en forme. Alors, ensuite, ah oui, il y avait Elzer, un héros ordinaire. Elzer, un héros ordinaire. Alors ça aussi, c'est un peu comme Le Labyrinthe de Olivier Hirschbiegel. Eh bien, il avait fait un film, La Chute, qui n'était pas très bon. Bon, c'est pas un très bon film. Hein. Mais en revanche, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Moi, j'ignorais complètement que Elzer avait mis une bombe pour tuer le Führer. Voilà, et en même temps, c'est parce que le Führer a quitté la salle deux minutes avant qu'il n'a pas pété et il serait mort. Donc c'est vrai qu'Elzer, un héros ordinaire, il aurait pu changer la face du monde. Donc de ce point de vue, là c'est intéressant, mais bon, j'ai trouvé que le film est lourd, quoi, un peu narratif. Bon, après, alors il y avait un autre film, alors là, qui était beaucoup plus déjanté, qui n'a rien à voir, c'est Lobster, The Lobster. Et ça, on pourrait peut-être s'écouter, c'est de Yorgos Lanthimos. Donc vous le savez, c'est des gens, quand ils sont seuls, on les regroupe dans un hôtel et ils doivent impérativement retrouver leur âme sœur, quoi, chacun sa chacune. Et s'ils le font pas, dans les 45 jours, ils sont transformés en animal. Et le personnage principal, on lui demande en quoi, il a dit The Lobster, parce que d'abord, ça vit très longtemps, ça peut faire l'amour toute sa vie, etc., etc. Et ça peut passer, enfin j'en sais rien. Bon voilà, donc l'idée est déjà de base assez drôle. On s'écoute la bande-annonce.
Have you ever been on your own before?
No, never.
Your last relationship lasted how many years?
12.
Sexual preference?
Women.
Any children?
No.
And the dog?
This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
Good morning. 44 days left. Breakfast is served.
As you understand from your brother's experience,
if you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal.
Would you like to dance? Mind if I join you?
Today you became erect quicker than on other days. That's good.
Please, just a little longer.
Voilà, vous venez d'entendre un bout de la bande-annonce de The Lobster de Yorgos Lanthimos, qui est un film qui a d'ailleurs eu le prix du jury à Cannes en 2015. C'est un film très insolite, voire surréaliste. En tout cas, c'est ce qu'on pense quand on voit les premières images du film. Et puis, c'est un film très culotté Il y a un scénario qui nous montre, au fond, d'une façon désespérée, la quête de l'amour hein, et l'atrocité du genre humain. Donc c'est un film très étonnant, qui ne manque pas d'humour, pas complètement abouti peut-être, mais enfin c'est au cas, c'est un ovni très audacieux dans le panorama cinématographique. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut le détour. Parce que c'est vrai que c'est un film qui est très étrange, quoi. Des cadrages très savoureux, notamment qui montre et qui ont du sens, notamment à un moment il y a la directrice de cet établissement qui arrive et qui est assez petite et elle est flanquée de son mari qui est beaucoup plus grand et donc c'est cadré pour montrer la tête de la femme et donc le mari, il est la tête du mari hors champ quoi, voilà tout est comme ça donc c'est assez drôle. Donc il s'agissait donc de The Lobster de Yorgos Lanthimos. Alors après il y a un autre film toujours dans cette année 2015, vous voyez qu'il y a quand même il y a de quoi faire. C'est un film japonais, Notre petite sœur de Kore Eda, de Yezu, je me souviens plus de son prénom, Hirokazu, je crois, Hirokazu, Kore Eda. C'est lui qui avait fait Nobody Knows, un film en 2004. Il y avait une sorte de c'est un film. Ouais, c'était l'histoire de mômes qui étaient livrés complètement à eux-mêmes et dont le frère aîné, qui avait à peine 7 ans, il prenait en charge ses frères et sœurs et notamment il y avait une petite sœur qui mourait, enfin, etc., etc. Mais c'était un film au-delà de l'histoire, un film qui vraiment était très fin. Et donc là, le film Notre petite sœur, c'est tout à fait charmant, c'est sympa comme tout. On s'aperçoit que ces films montrent toujours des mères qui sont pas très, très, très recommandables, mais qui sont jamais jugés. L'enfance est souvent malmenée, voilà. Mais en même temps, c'est toujours très, très beau parce que c'est fait avec beaucoup d'élégance et de délicatesse. Et alors, il y a un autre film, pour en terminer, avec 2015, c'était El Club de Pablo Larraín. Alors là, il ne va pas avec le dos de la cuillère parce que le El Club, c'est l'histoire de ce fameux club qu'on a mis de côté. Ce sont des curés qui ont abusé des enfants, quoi. Et donc, c'est un sujet effectivement extrêmement délicat, épineux. Et en même temps il y a une hypocrisie naturelle, solidaire en revanche ce qui est le plus étonnant c'est que tout d'un coup on entend un môme qui raconte toutes les horreurs qu'on lui a fait subir, que ses prêtres lui ont fait subir et c'est dit d'une façon avec une froideur clinique, ça vous fait froid dans le dos parce que c'est vrai que tout d'un coup quand on appelle un chat là ça devient encore plus horrible. possible que lorsqu'on essaie de dissimuler en faisant croire que, mais pas vraiment, tatati tatata. Donc tout d'un coup, moi j'étais quand même très étonné, parce que c'est vrai que ça surprend beaucoup, et en même temps, il paraît que lorsque ces enfants qui ont donc été violentés, et violé par ces adultes. Il paraît que quand, enfin, en tout cas, au Chili, puisque c'est un film qui se passe au Chili, il raconte ça d'une façon comme un détachement, comme si c'était pas leur corps qui avait subi ça. Ils ont une espèce de, comme s'ils étaient devenus insensibles. Voilà. Donc, voilà, c'était très, très, très étonnant. Voilà. En tout cas, un film, oui, avec des interrogatoires, avec des choses très ambiguës tout le temps. Voilà, et notamment avec des choses qu'on laisse secrètes, parce qu'à un moment, un curé qui doit faire la justice, il va dire « je préfère la justice interne », c'est-à-dire « je ne dirai rien à la presse, j'aime trop l'Église ». Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc c'est un film sombre, où la lumière d'ailleurs est très voilée, hein, tout est dit, mais rien n'est résolu. Hein, à la fin du film, on en est toujours au même point. Bref, donc vous l'avez compris, une très belle année, avec de bonnes bouteilles qui vont bien vieillir. Donc je vous rappelle en deux mots la liste, parce que je très peu de secondes maintenant, la liste des films pour lesquels vous pouvez voter et que vous retrouverez sur le site www.radiofmplus.org, et il doit y avoir un point entre le dernier W et radio d'ailleurs. Hein. Bon. Et donc, Timbuktu, La Rançon de la Gloire, Foxcatcher, Phoenix, Snow Therapy, Birdman, Big Eyes, La Sapienza, mais bon, je pense qu'il y aura peu de gens qui l'auront vu. Un pigeon perché sur une branche philosophée sur l'existence. Le labyrinthe du silence. Youth. L'homme irrationnel de Woody Allen. The Lobster de Yorgos Lanthimos. Et puis Notre petite sœur de Kore-eda. Et Elle Club de Pablo Larraín. Donc toute cette liste, vous pouvez la retrouver et voter pour les trois dans votre esprit qui vous semblent les meilleurs parmi cette liste, bien évidemment. Bon, mais je crois qu'on a tout dit. Donc vous voyez, vous avez du travail sur la planche dès le début janvier 2016. Je remercie Manu qui était aux commandes. Et nous, on se dit, eh bien, on va continuer. Hein, on va sévir. Et on se reverra mercredi prochain.